Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite.
Après les 10 semis que j'ai fait en 2017, je me suis dit je vais en faire 21 et ça va me permettre de voyager et d'aller dans des endroits où peut-être je n'y suis pas allé. Et je me suis dit pareil, quand tu seras peut-être un peu plus âgé, tu diras putain, mais j'ai quand même fait 21 semi-marathons dans 21 pays en 21 semaines. C'est fort. Même si c'est à un niveau amateur, je me suis dit c'est quelque chose qui me restera en tête et je serai marqué là-dessus. Bon, je réfléchis un tout petit peu et puis je me dis, allez, fuck off, il faut le faire. Il faut courir la muraille de Chine. Et là, je vais encore plus loin et je me dis, non, mais attends, Zach, t'es un peu débile. T'aimes les challenges débiles. Ok, tu vas faire la muraille de Chine, mais pourquoi pas en mettre 2 sur le même week-end? Et je me dis, bon, bah, allez, go. Et je trouve le semi-marathon de la mer Morte en Jordanie. Et je me dis, bon, bah, vas-y. Feu, tu vas et tu fais les 2 semi-marathons sur le même week-end, un en Jordanie et le lendemain en Chine. Alors j'arrive en haut du sentier, donc j'arrive sur la muraille et là en fait je me prends une grosse claque. Je m'y attendais pas et je sais pas comment l'expliquer. Je suis un enfant de la télé, tu vois, donc j'ai beaucoup regardé la télé quand j'étais petit. Et j'ai beaucoup regardé les films de Jackie Chan, de Jet Li, des films asiatiques. Et tu vois la muraille de Chine, tu la vois que dans les films. Et là, t'arrives et t'es dessus, tu la vois qui se prolonge au long, interminable. Tu fais waouh, en fait, je suis sur la muraille. Moi, petit garçon qui a grandi dans une petite cité parisienne de famille pauvre, j'ai fait mon petit bout de chemin et là, je suis en Chine, à Pékin, sur la muraille de Chine et je cours un semi-marathon. En fait, mais je me dis ça, mais c'est... Ça se fait en une fraction de seconde dans ma tête, parce que je suis dans la course.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu, et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Course Épique. Vous commencez à le savoir, mais pour les nouveaux auditeurs qui me font le plaisir d'avoir découvert Course Épique récemment, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et si vous avez la possibilité de prendre quelques secondes pour lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, cela aidera le podcast à se faire connaître plus largement encore. Course épique, c'est comme la course à pied, c'est encore meilleur quand on le partage. Enfin, pour suivre les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. C'est le meilleur moyen de tout savoir sur Course épique et également de me suggérer des invités que vous aimeriez que je reçoive. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Zach Madou, qui va nous faire vivre sa course définitivement pas comme les autres sur la muraille de Chine. Cette course s'inscrit plus largement dans un projet assez fou de Zach au cours de l'année 2018, courir 21 semi-marathons dans 21 pays en 21 week-ends. Vous l'entendrez, l'épisode fourmille d'anecdotes, d'imprévus, de galères, de moments de grâce. Un épisode très rafraîchissant, franchement dépaysant, avec une personnalité fantasque et surtout fantastique. Mais je ne vous en dis pas plus, Zach va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, pour le meilleur et pour l'empire.
Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute!
Salut Zach!
Salut!
Bienvenue dans ce 20e épisode de Course Épique, comment ça va?
Ça va et toi?
Bah pas mal, écoute, on enregistre, c'est le samedi après-midi, c'est un des meilleurs moments de la semaine quand même, après une petite course le matin. Je me suis tordu la cheville pour tout te raconter pour la première fois depuis bien longtemps. Mais à part ça, je passe une bonne journée et je suis ravi d'échanger avec toi. Avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs ?
Ah bah, salut à tous, moi c'est Zach, 34 ans, je suis responsable logistique, je suis un bon vivant avant d'être un sportif amateur. Donc j'aime rire, rigoler, passer du temps avec les copains, m'amuser et aussi un peu à côté faire de la course à pied. Voilà.
Beau programme, beau panorama. Est-ce que tu pourrais nous parler plus spécifiquement de tes premiers pas dans le sport lorsque tu étais enfant ou ado ? C'était quoi les sports que tu pratiquais à l'époque ? Ou peut-être que tu n'en pratiquais pas d'ailleurs ?
Quand j'étais petit, je faisais pas beaucoup de sport. J'ai eu, en fait, je fais un tout petit peu d'athlée, mais vraiment tout petit. Hein, c'est au collège, j'ai eu le fameux cross du collège où j'ai eu un bon résultat. Puis après, j'ai fait le cross
du lycée,
du 20e arrondissement, cross du Butte-Chaumont, pardon. Après cross départemental, et mon prof de sport m'a inscrit dans son club à Neuilly-Plaisance. J'ai dû faire une demi-saison, même pas. J'étais petit, hein, j'avais 11 ans. C'est une petite demi-saison, c'était cool. Mais après, plus trop de sport, si ce n'est du foot avec les copains. Et après, plus tard, vers le lycée, un peu plus de boxe. Et après, je suis revenu vers foot et après course à pied.
Et qu'est-ce qui t'a fait revenir justement vers la course à pied un peu plus tardivement ?
Bah en fait, c'est que j'ai eu une période de ma vie où j'ai vraiment pris beaucoup de poids. J'étais concentré que dans le boulot. C'était pas bien, c'était une période un peu mauvaise et où j'ai pris vraiment beaucoup de poids. Et là, je me suis dit du jour au lendemain, ok, je plaque tout, je change de copine, je change de boulot, je change du jour au lendemain. Et je me restreins à un régime et je me mets du sport. Donc, je faisais beaucoup de boxe et de musculation, de fitness. Et après, bah, il fallait quand même que j'essaye de perdre encore plus vite du poids. Et j'ai commencé à courir la nuit, tout seul. Et puis, j'ai découvert des groupes de course à pied. Et puis là, c'est là où j'ai intégré des groupes de running. J'ai commencé à rencontrer des gens, à courir plus, à être attiré plus par le running que par les autres sports. Et d'un coup, j'ai lâché la boxe, j'ai lâché le foot, j'ai lâché le rugby. J'ai perdu 30 kilos et j'ai continué la course à pied.
Quel accomplissement tu y trouves, toi, dans la course à pied ? Qu'est-ce qu'elle t'apporte que peut-être ne te ferait pas la boxe, par exemple ?
Bah après, la boxe, t'es face à un adversaire. Et tu dois un peu prédire ses mouvements, essayer de... C'est un combat, toi contre l'autre. Le foot, c'est pareil, c'est toi contre quelqu'un. Tandis que la course à pied, c'est toi contre toi-même. C'est ça qui est différent et qui est vraiment... c'est incomparable. Quand je suis sur une course et j'ai envie de flancher, je hurle contre moi-même et j'essaie de me dire Zach, allez, bouge-toi, tu lâches pas le morceau. Et c'est un combat contre soi-même. C'est un combat contre soi-même, même que ce soit pour les entraînements, pour la préparation, pour la course en elle-même. Voilà, c'est je trouve il y a ce côté dépassement que j'aime beaucoup, que j'ai déjà dans la vie de tous les jours et que j'ai retrouvé dans la course à pied.
Est-ce que tu es plutôt un loup solitaire ou est-ce que tu affectionnes les moments de groupe et les courses et des projets que tu inscris dans une histoire collective ?
Alors, je peux vivre en solitaire, c'est pas un problème, mais j'arrive pas du tout à m'entraîner tout seul. C'est très dur. J'ai réussi pendant un temps, mais là aujourd'hui, j'arrive plus. J'ai besoin d'être en groupe, j'ai besoin des personnes pour courir et pour avoir cette espèce d'émulation. C'est ça qui me tire, hein. C'est le fait d'être avec des gens et de rigoler avec des gens, d'être dans la douleur avec des gens, d'être à plusieurs.
Et dans la fierté avec les gens, une fois que tout ça
Exactement.
Est terminé. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes points forts et de ce que tu penses être tes points d'amélioration ou les choses qui t'emmerdent un peu plus à travailler ?
Mes points forts, moi, je pense que le numéro un, c'est la résilience et l'abnégation. C'est que je suis quelqu'un qui lâche pas. Et j'ai pas besoin, je subis bien, je tiens bien la douleur, je tiens bien dans la durée. Et ça, c'est quelque chose que je trouve une de mes forces dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le sport ou dans ma personnalité. C'est que je suis quelqu'un qui avance et qui lâche pas. Après, en faiblesse, je dirais à l'inverse, je suis un peu foufou. Je suis un peu, je suis pas très cadré. Et du coup, ça, c'est une de mes faiblesses, c'est que autant je suis très structuré dans le travail, autant dans la vie perso, je suis un peu freestyle, voire trop freestyle. Et ça, c'est ce qui m'empêche justement de... J'ai jamais été dans un truc en course à pied de progresser, mais si j'avais vraiment voulu progresser, c'est un peu mon truc, c'est que j'ai du mal à me concentrer et à faire des trucs de manière bien, quoi. J'y vais un peu trop à l'arrache. Alors c'est cool le à l'arrache, mais des fois, c'est pas forcément la meilleure chose à faire.
Est-ce que tu peux nous dire la place qu'occupe la course à pied aujourd'hui dans ta vie et comment tu l'orchestres avec tes impératifs de boulot Tu parlais de tes potes et des sorties, etc. Quelle place elle tient aujourd'hui la course à pied dans ta vie?
Bah, ça a été vraiment évolutif parce qu'en fait, la course à pied, comme j'ai dit, c'était un peu au début, c'était pour perdre du poids. Puis après, c'était, je faisais un run avec des copains avant de boire une bière. Et au final, le run et la course à pied rentrent progressivement et devient une partie entière de ta vie. Et du coup, bah, j'ai perdu des potes, j'ai perdu des gens parce qu'ils ne comprenaient pas aussi que la course à pied fait partie de moi et je ne peux plus enlever la course à pied. Du coup, là aujourd'hui, j'ai un peu de mal à m'entraîner avec le contexte actuel, mais c'est clair que la course à pied, je suis obligé maintenant et je l'aurai toujours autour de moi. Et ça va conditionner les relations futures que je vais avoir avec des gens, les métiers que je vais potentiellement faire. J'arrive pas encore à m'entraîner le matin ou le soir comme je voudrais, mais voilà, c'est quelque chose. J'aurai la course à pied quoi qu'il arrive toute ma vie, même à 60 ans, j'irai m'aligner sur des 10 km pour courir et avoir cette sensation d'accrocher un dossard sur ma poitrine.
C'est beau.
Non,
c'est vrai. C'est vrai. Génial. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour cette présentation, Zach. On va passer désormais à notre redoutable séquence de la basket chinoise. C'est un portrait chinois version sportif qui n'aura jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui, puisqu'on va parler de ton semi à la muraille de Chine. Première question de cette basket chinoise. Si tu étais un personnage fictif, qui serait-il et pourquoi?
Alors, moi, je serais Tintin. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est Tintin. J'ai grandi avec Tintin et c'est quelqu'un qui est toujours dans des aventures. Et qui recule pas, il est toujours en train d'avancer. Bon, pour le côté Milou, non, moi j'ai mes meilleurs amis, avoir un meilleur ami chien, c'est pas trop mon truc. Mais j'adore le côté, il va de l'avant, il vit des choses. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est d'essayer d'aller de l'avant et d'essayer de vivre des aventures. Et c'est pour ça que Tintin, je trouve, c'est vraiment le personnage qui a des valeurs et auquel j'ai pensé.
Et qui aime bien explorer, effectivement, comme toi, tu vas avoir l'occasion de nous le raconter. Explorer le monde, c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. Donc, si tu étais un animal, ce serait pas nécessairement Milou, mais peut-être
non.
Un autre animal.
Alors, en animal, j'hésitais entre deux, mais je pense que celui qui sera duquel je suis le plus proche, c'est le caméléon. Pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment quelqu'un qui peut. Je peux me fondre dans n'importe quel environnement. Et j'ai plusieurs, entre guillemets, pas personnalités, mais j'ai plusieurs facettes. Donc, je vais avoir le sportif, je vais avoir le fêtard, je vais avoir le responsable logistique, donc le manager. Je vais avoir le père de famille, parce que j'ai un petit garçon. Je vais avoir plusieurs rôles et plusieurs casquettes. Et du coup, je bascule entre tous ces personnages comme un caméléon.
Donc, c'est de l'intelligence émotionnelle aussi, ta capacité à comprendre l'environnement et à appuyer sur ta facette la plus adaptée au contexte. Ouais.
Exactement.
Et enfin, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire ou qui suscite un respect particulier chez toi?
Bah, il y en a plusieurs. Après, quand j'ai regardé là récemment et même avant de regarder le documentaire, mais Michael Jordan, c'est vraiment fort. J'ai revu tout ce qu'il a fait les années aux Chicago Bulls. Après, quand il quitte, qu'il prend sa retraite, qu'il revient en force, il avait une mentalité, il avait un charisme, il arrivait à faire que les gens se donnent pour lui. Donc Michael Jordan restera pour moi l'un des plus grands sportifs que j'aurais connu. Et puis j'ai eu la chance de le voir à Paris, donc ça ajoute un petit plus.
C'est un leader incroyable. C'est pour ceux qui ont eu la chance de voir le documentaire là sur Netflix, il est assez étonnant. Enfin, ce leadership, c'est quand même assez exceptionnel. C'est lui qui porte à bout de bras une équipe et donc il faut une pression de dingue à tous ses coéquipiers, évidemment, qui se sentent. C'est difficile de se sentir à la hauteur quand on joue et coexiste avec un tel joueur, mais c'est sûr qu'il les a tirés vers le haut et qu'il a porté les Bulls à lui tout seul.
Exact.
Et je pense que le docu, après, effectivement, lui donne une version très positive de lui. Je pense qu'il était quand même très compliqué à vivre au quotidien. Enfin, le niveau d'exigence est de toute façon pas compatible avec une très grande empathie. Et au contraire, on a plutôt envie de pousser les gens dans leur retranchement pour les emmener plus haut. Mais je pense qu'ils ont tous beaucoup appris à ses côtés, en tout cas.
C'est ça.
En tout cas, ouais, je partage aussi beaucoup de fascination. j'avais moi aussi mon t-shirt des Chicago Bulls quand j'avais 15 ans. Voilà, ça a été assez marquant dans ma jeunesse.
Non, mais là, j'ai voulu m'acheter un maillot, mais c'est un peu trop cher pour moi, là.
Il y a une petite enflammade sur les prix, effectivement.
Exactement.
Merci beaucoup, Zach. Et on va maintenant parler de ta course épique, le semi-marathon de la muraille de Chine. Pour donner quelques éléments de contexte à nos auditeurs, les différentes courses de la Grande Muraille se déroulent sur un parcours varié qui combine des trois sentiers, des petits villages et bien sûr, la Grande Muraille de Chine, c'est quand même l'intérêt de la course, avec ses sections de montée et de descente plutôt abruptes. Il y a trois distances qui sont proposées aux coureurs, le marathon, le semi et la fun run qui est un peu plus courte, qui fait 8,5 km. Et ces trois courses se tiennent en partie sur la muraille de Chine, l'une des sept nouvelles merveilles du monde, un impressionnant vestige historique âgé de 2500 ans. Le tronçon sur lequel toi tu as plus particulièrement couru a été construit pendant la dynastie Ping vers 1368, c'est toi qui me l'as appris quand on a préparé cet entretien. L'ensemble des sections de la Grande Muraille construite à travers l'histoire se déploie sur une longueur totale de plus de 21 000 km et de nos jours ne subsistent que quelques centaines de kilomètres de murs que les visiteurs peuvent aller admirer. Le marathon est réputé être l'un des plus exigeants au monde et réunit chaque année 2500 coureurs venus de 60 pays. Pour la petite histoire, le parcours du marathon compte 5164 marches. J'ai pas trouvé le chiffre officiel sur les nombres de marches du semi-marathon auquel toi tu as participé, mais on peut imaginer qu'il y en a aussi un certain nombre et probablement trop, comme tu ne vas pas manquer de nous le confirmer, je pense, un peu plus tard dans notre histoire, Zach. Bien qu'il s'agisse de course officielle, il s'agit avant tout de relever le défi et de se dire qu'on va vivre une aventure exceptionnelle plutôt que de chercher à y faire un chrono, la nature même du parcours ne le permettant pas vraiment. Vous l'aurez compris, tu t'es donc frotté, Zach, à un semi-marathon, certes dans un décor exceptionnel, mais qui ne s'annonce pas franchement comme une partie de plaisir. Avant que tu ne partages avec nous le récit de ta course épique, petit passage obligé par notre rubrique « La question qui pique de course épique », une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Je l'ai dit un peu plus tôt, la muraille de Chine fait partie des 7 nouvelles merveilles du monde. Je t'ai concocté, Zach, une petite sélection de 7 lieux emblématiques de notre planète. À toi de me dire s'ils font oui ou non partie de la prestigieuse liste des 7 nouvelles merveilles du monde. T'es prêt ?
Yes, vas-y. J'étais pas prêt, mais allez, on y va.
T'as le droit de regarder Google d'un œil en même temps que...
Non, c'est d'accord.
Allez, au feeling. Le temple d'Angkor Wat au Cambodge.
Oui.
Ça commence bien, c'est non. perds pas le moral.
Mais je sais pas pourquoi, ma bouche a dit oui. Et ouais. J'ai eu une fraction de seconde, j'ai dit mais non, mais c'est pas grave, allez, oui.
Ah, c'est pas grave, tu vas te refaire, j'en suis sûr. Plus dur, le Puy du Fou.
Ah non.
Non, évidemment. C'est une bonne réponse. Le Taj Mahal en Inde.
Oui.
C'est une bonne réponse, Zach. T'es revenu au sommet. L'île de Pâques au Chili.
L'île de Pâques, non.
C'est une bonne réponse. La Tour Eiffel.
La Tour Eiffel, ah, j'ai l'impression que c'est un piège. Je dirais oui, quand même.
Eh bien, il n'y avait pas de piège. La Tour Eiffel n'en fait pas partie.
Ouais, allez. Voilà, tu vois. Pour moi, ça devrait, parce que c'est aussi beau et c'est aussi impressionnant que le Taj Mahal.
Effectivement. Les gens peuvent soumettre de façon régulière, ils consultent la population mondiale pour justement essayer d'identifier ce qui pourrait être les 7 nouvelles merveilles du monde. Et je pense que beaucoup de Français ont d'humilité pour que la Tour Eiffel rejoigne le palmarès. Avant-dernière proposition, le Colisée en Italie.
Le Colisée, j'aurais envie de dire non, mais je vais dire oui.
Eh bien, tu as bien fait de suivre ton instinct, c'est la bonne réponse. Et dernière proposition sur les 7, le Machu Picchu au Pérou.
Le Machu Picchu, le Machu Picchu, allez, oui.
Bravo, quel gros finish. Bah écoute, tu t'en sors bien. 5 bonnes réponses sur 7, c'est quand même un très très joli score.
Vous avez gagné quoi ?
Eh bah, ben, t'as gagné ton dossard pour le prochain semi-marathon de Montmartre. Voilà. Qui n'avait pas encore été créé, mais que je m'empressais d'aller déposer et créer pour pouvoir te filer un dossard.
Avec plaisir.
Bravo, Zach, en tout cas. 5 sur 7, c'est un joli score. Allez, fini pour cette petit exercice cérébral. On enfile le short et les chaussures de running pour embarquer avec toi dans ta course épique en Chine à l'occasion du semi-marathon de la Grande Muraille 2018. Avant de partager plus particulièrement avec nous cette course, est-ce que tu pourrais nous parler du projet sportif très particulier que tu as entrepris l'année de tes 30 ans ?
Yes, en fait, on était en juin 2017. J'avais déjà eu 30 ans, mais j'avais perdu mon boulot. Je venais de me séparer de ma copine. Et puis, je me suis un peu réfugié dans le sport. Et je me suis dit, bah tiens, vas-y, il faut que je trouve un truc fun à faire pour rester un peu actif, parce que je sentais que je devenais un mec inutile, avachi sur son canapé. Et je me suis dit, si je ferais pas 30 courses, 30 médailles pour mes 30 ans. Et du coup, je décide ça en juin, et j'ai à peu près 3-4 mois pour me faire des courses tous les week-ends, tous les formats, pour atteindre les 30 médailles. Du coup, au début, je me suis dit, bon, bah, je vais faire du 5, du 10, de tout ce qui est possible. Après, j'ai commencé à voir des formats que je connaissais pas et je me suis dit, bon, bah, tiens, je vais faire une course sur chaque distance. Je vais faire 5, 10, semi, triathlon, course d'obstacles et marathon. Donc, un marathon pour la 30e médaille. Et après, je me suis retrouvé au mois d'août sans course. Et du coup, j'ai vu une copine qui partait faire le semi de Dublin. Et j'étais là, waouh, attends, il y a des semis à l'étranger. J'y connaissais rien du tout. Hein. Elle fait, mais oui, mais t'as qu'à venir et tout. Donc j'ai fait, ah putain, mais vas-y, je prends mon dossard et je te suis. Et trois jours après, j'allais à Dublin et je faisais le semi de Dublin. Et du coup, c'est comme ça que j'ai vu des courses à l'étranger. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais rajouter des petits semis un peu comme ça, à droite, à gauche, en Europe, dans le challenge des 30 ans, 30 médailles. Et j'ai réussi à tenir l'objectif. Bon, c'était un peu sport. Je sais qu'il y a un week-end où j'ai fait 5 courses entre Paris et Londres, mais c'était trop fun. Et j'ai fini avec 30e course, 30e médaille, le marathon de Valence. Bon, je l'ai raté, mais...
Qu'est-ce que tu appelles raté ?
Ce que j'appelle raté. Non, mais ça compte pas. J'ai dit, hein, je suis un bon vivant, donc j'ai beaucoup picolé ce week-end, ce qui est débile avant un marathon. Je l'ai raté, j'ai fait 3h00.38.
D'accord, tu visais en dessous des 3 heures ?
Ouais, je voulais faire premier marathon, je voulais faire 2,58, 2,59, sans prépa, sans entraînement, je voulais faire un peu le truc freestyle, et je l'ai tenu jusqu'à ce que j'ai eu une petite crampe qui m'a fait perdre quelques secondes pendant la course, parce que j'avais trop picolé la veille. Bon, voilà, c'est un peu débile, mais c'est Zach, c'est tout moi, c'est le sport et le fun en même temps.
C'est quand même très honorable, 3 heures pour un premier marathon ?
Ouais, mais je suis quand même déçu. Là, je suis obligé d'en refaire un. Et si j'en refais un, faut que je le ferai proprement avec une vraie prépa pour justement ne pas rester sur 3h00, mais essayer d'aller chercher 2h48, quelque chose comme ça.
Après cette année folle de tes 30 ans, tu pars en quête d'un nouveau défi pour 2018 et tu échafaudes un nouveau projet assez fou.
Ouais, alors quand j'ai fait les 30 ans et le nouveau projet, bah, j'ai couru, en fait, il y a un de mes potes, pareil, en soirée, qui me dit « Non, mais Zach, faut trop qu'on fasse une course, j'ai une super idée, et il me faut un gars comme toi, un peu casse-cou, qui aime bien les challenges. » Il me dit « Viens, on va courir à Tromsø, tout au nord de la Norvège, cercle polaire, à moins 5 degrés, à 14 heures, il fait nuit, aurore boréale. » Et je lui dis, un peu bourré, « Mais ouais, je suis chaud, viens, on le fait. » Et du coup, on est parti, en janvier, on l'a fait, c'est trop bien. Et derrière, tout le monde me disait, mais il faut que tu trouves encore plus. Attends, t'as fait 30 ans, 30 médailles, t'es allé courir au cercle polaire, qu'est-ce que tu vas nous sortir? Donc, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, tiens, bah vas-y, j'ai fait 30 courses, 30 médailles. Dans les 30 courses, j'ai fait 10 semi-marathons un peu en Europe. Bah là, pourquoi pas faire 21 semi-marathons dans 21 pays en 21 semaines. Donc, entre le moment où l'idée est venue dans ma petite tête et la réalisation, il y a eu un mois ou deux. J'ai pas trop voulu l'annoncer parce que les réseaux sociaux, pareil, t'as des gens qui trouvent ça débile, t'as ceux qui te supportent. Donc, je l'ai gardé dans un petit coin de ma tête et je me suis dit, dès que le semi de Paris démarre, j'essaye toutes les semaines de faire un semi à l'étranger. Et une fois que je suis dedans, bah, je reviens plus en arrière. Et c'était un peu plus compliqué que prévu parce qu'au début, j'étais au chômage. Après, j'avais un boulot, donc concilier vie professionnelle et vie sportive, calendrier, repos, etc. C'était challenging, mais c'était super fun. Et c'est ce qui m'a amené à démarrer avec Paris, puis ensuite en Italie, ainsi de suite. J'ai fait plusieurs pays jusqu'à ce qu'on arrive sur cette fameuse course de la muraille de Chine.
Quel est justement ton état d'esprit et le sens de cette démarche? C'est prendre du plaisir, c'est te prouver des choses, courir le monde, vivre un challenge sportif hors norme. C'est quoi la quête derrière tout ça? Est-ce qu'il y en a une ou est-ce que c'est pas aussi intellectualisé que ça?
Ce que j'ai adoré quand j'ai fait le challenge des 30 ans, 30 médailles, c'est que j'ai fait des choses que j'avais jamais faites dans ma vie. J'avais jamais fait de triathlon, j'avais jamais fait de marathon et j'ai voyagé dans des endroits où je n'étais jamais allé. J'avais pas beaucoup voyagé. Si, j'avais un peu voyagé, mais j'ai, comme pour plein de monde, j'avais voyagé pour faire la fête, pour rigoler, pour déconner. Pas vraiment de voyage sportif avec aller récupérer son dossard, se préparer un peu mentalement, visiter la ville d'une autre manière au travers d'une course où on est dans la course et on est dans la découverte de la ville. Et j'étais trop content de me dire, bah, je suis allé, quand j'ai fait un semi à Reykjavik, je suis allé à Oslo, je suis allé à Copenhague. Et je me suis dit, non, mais il faut trop que je continue, en fait. J'ai envie de découvrir d'autres villes. Et le meilleur moyen, mais un moyen, moi, qui me permet de visiter, c'est aussi au travers de la course à pied. Parce que j'ai pas beaucoup de temps et que mes yeux sont attentifs à tout ce qui se passe et que je suis comme un gosse et je regarde un peu partout dans la ville. Et du coup, bon, bah, après les 10 semis que j'ai fait en 2017, je me suis dit, je vais en faire 21 et ça va me permettre de voyager et d'aller dans des endroits où peut-être je n'y suis pas allé. Et je me suis dit, pareil, quand tu seras peut-être un peu plus âgé, tu diras, putain, mais j'ai quand même fait 21 semi-marathons dans 21 pays en 21 semaines. C'est fort. Même si c'est à un niveau amateur, je me suis dit, c'est quelque chose qui me restera en tête et je serai marqué là-dessus.
Quelles sont les grandes règles que tu te fixes en termes d'organisation, de planning, de budget? Est-ce que tout ça est vraiment calé au millimètre et très anticipé, ou est-ce que c'est l'organisation un peu last minute? Comment est-ce que tu jongles avec ces challenges de placer 21 semis dans 21 pays différents sur 21 semaines?
Bah, en fait, comme je naviguais pas forcément, j'avais pas vraiment de plan, je me disais, bon, je sais pas si mes jambes vont tenir, si moi physiquement je vais réussir à atteindre l'objectif, parce que j'ai pas une hygiène de vie irréprochable, je bois beaucoup, je fume beaucoup, je m'amuse beaucoup avec les copains, et je veux toujours avoir une vie sociale et pas mettre de côté tout le reste pour me concentrer que sur la course à pied. Et donc du coup, je savais pas trop si j'allais pouvoir enchaîner tous les semis sans avoir de pépins, donc je prenais un petit peu tout en last minute. Et je vais donner un exemple, hein. Dès que je démarre le challenge, bon bah je démarre avec Paris, donc Paris c'est pas en organisation, c'est assez super simple. La semaine suivante, je dois partir en Italie et j'arrive à l'aéroport et en fait, je me suis trompé de billet d'avion. J'ai pris un billet d'avion pour la semaine suivante. C'est complètement débile, je me fais recaler à l'aéroport et je rachète un billet d'avion sur place en last minute parce que j'étais obligé de partir parce que le semi était le lendemain. Et du coup, ça m'a imposé derrière une espèce de rigueur à quand même revérifier mes billets d'avion, planifier un minimum, mais jamais sur 2 mois. Je planifiais à 2-3 semaines parce que il fallait que je sache si j'avais les jambes pour courir et si j'avais l'argent aussi, parce qu'il y avait une notion financière. Il y a des vols et des destinations qui sont plus chères que d'autres. Donc, c'était un peu du last minute.
Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots certaines courses qui t'auraient marqué avant qu'on en arrive à parler plus spécifiquement du week-end en Chine? Je pense notamment à un enchaînement assez ambitieux de semis entre Valence et Varsovie. Est-ce que tu peux nous raconter quelques faits saillants de ces premiers mois?
Ça arrive très tôt dans le challenge. En fait, je fais en premier Paris. Après, je fais Brescia à côté de Milan. Ensuite, je pars à Chypre. Et pour le quatrième week-end, je pars à Valence pour les championnats du monde de semi-marathon. J'avais déjà couru à Valence, j'avais fait le marathon et j'adore la ville. Et en organisation, c'est impressionnant. La ville tourne autour du running. Et quand j'ai entendu qu'il y avait les championnats du monde qui étaient ouverts aux amateurs une fois tous les 2 ans, donc j'ai dit, il faut que j'y aille. Et je l'inscris dans le challenge et faut que je fasse cette course. Du coup, la course a lieu le samedi à 19h. Et j'ai le lendemain, le semi-marathon de Varsovie, dimanche à 9h. Donc, comment caler la course et les billets et les avions? C'était vraiment sport. Donc, j'arrive à Valence, je fais la course derrière les champions, on court derrière Wanders, on court derrière les délégations de tous les pays. C'était magique. Mais j'ai même pas le temps de profiter parce que je finis la course. Bon, je reste un petit peu avec des copains rapido et puis je fonce à l'aéroport. Je fais Valence, Palma de Majorque, Copenhague, Copenhague, Varsovie. J'arrive à Varsovie à 8h et à 9h, je suis sur la ligne de départ.
en pleine forme, frais et dispo.
C'était sport, mais c'était trop bien parce que les gens ont vu, et j'avais des potes qui étaient aussi à Varsovie, ils m'ont vu être à Valence la veille, courir le semi et le lendemain matin, en refaire un deuxième. Bon, après, il s'avère que le deuxième, je l'ai fait en lièvre, donc je le faisais pas en performance. Mais même, c'était juste trop cool.
Est-ce que ton entourage te suit? Enfin, ils sont au taquet et ils te suivent week-end après week-end. Est-ce que tu partages sur les réseaux sociaux ou non? Tu gardes secret?
Pour eux, je suis un ovni. Je ne suis pas issu d'une famille qui est dans l'univers sportif. Ils me disent juste, mais pourquoi tu payes pour aller courir? C'est quoi l'objectif? Ça n'a pas de sens. Tu peux courir gratuitement dans la rue en bas de chez toi. Donc, ils n'ont jamais vraiment compris jusqu'à ce qu'un jour, en fait, ma mère reçoit une copine chez elle et puis son gamin voit une photo de moi et dit « Mais tata, c'est Zach, c'est ton fils qui court partout dans le monde ?» Elle dit « D'où tu connais Zach ?» Et puis là, elle commence à comprendre qu'en fait, il y a quelques personnes qui me suivent un petit peu et que ce que je fais, c'est pas anodin. Mais, Mais non, ils m'ont jamais vraiment soutenu. Hein. Pour eux, quand ils me voyaient partir le week-end, ils me disaient encore, mais tu vas pas t'arrêter. Je dis bah non, je vais pas m'arrêter. C'est encore comme ça pendant 3 mois.
Tu t'es pas fait déshériter, rassure-moi.
Non, mais il y a pas grand-chose à hériter.
Ok. Et comment est-ce que tu entends parler du semi-marathon de la muraille de Chine?
Bah alors en fait, pendant le challenge, j'ai eu une grosse force. J'ai les copains qui, il y avait plein de potes qui me disaient ah j'ai trouvé un dossard pour le semi de telle ville, j'ai trouvé une course à tel endroit, etc. Donc tout le temps on m'envoyait plein d'idées et je faisais ah trop bien, je le note, je le garde dans un coin parce que le planning était évolutif. Il y a un moment je décide de faire une course et quand je vais pour prendre le dossard, bah la course est complète donc je dois me rabattre sur une autre ville. Et là bizarrement bah je tombe sur une pub sur Facebook, une pub running, une pub Red Bull qui parle des courses les plus incroyables à faire dans le monde. Et dans l'article, il y a 4 ou 5 courses. Il y a l'Antarctique, il y a course safari au Kenya et il y a la muraille de Chine. Et je me dis, putain, la muraille de Chine, ça doit être trop stylé. Et je regarde, je me renseigne un petit peu pour voir combien ça coûte parce que j'ai regardé toutes les courses. La course safari, c'était 2 500 $, je crois. L'Antarctique, 15 000 €. Et je regarde la muraille de Chine, j'arrive, je tombe sur un site et je vois 400 $ le dossard seul. Sans package, sans voyage, etc. Je me dis, ah ouais, déjà, c'est plus abordable que les autres et c'est jouable. Je regarde le calendrier 15 avril, je me dis, non, mais ça rentre directement dans mon planning, quoi. Je peux le caler. Bon, c'est dans un mois, faut que je me coordonne, mais c'est jouable. Et du coup, bon, je réfléchis un tout petit peu et puis je me dis, allez, fuck off, il faut le faire. Il faut courir la muraille de Chine. L'année dernière, t'as couru, t'as fait des courses un peu partout. Tu t'es fait aussi un petit semi-marathon au cercle polaire. Donc, pourquoi pas faire un semi-marathon sur la muraille de Chine? Et là, je vais encore plus loin et je me dis, non, mais attends, Zach, t'es un peu débile. T'aimes les challenges débiles. Ok, tu vas faire la muraille de Chine, mais pourquoi pas en mettre 2 sur le même week-end? Et je me dis, bon, bah, allez, go. Et je trouve, il y a pareil, c'était pas sur ce site. Si c'est possible que ce soit sur le même site, le semi-marathon de la mer Morte en Jordanie, au point le plus émergé sur Terre, qui est également dans le même week-end que la muraille de Chine. Et je me dis, bon bah vas-y, feu, tu vas et tu fais les 2 semi-marathons sur le même week-end, un en Jordanie et le lendemain en Chine.
Comme c'est juste à côté, c'est dommage de s'en priver effectivement de pas enchaîner les deux.
Ouais, c'est 7000 km entre les deux.
C'est sur le chemin.
C'est ça. J'étais un peu. C'était un peu compliqué quand même pour matcher tous les billets d'avion. Mais je m'étais dit, quitte à faire un truc de fou, autant aller jusqu'au bout et faire un truc hors norme.
Donc tu pars le jeudi soir du bureau comme d'hab. Sauf que là, tu as en tête d'aller faire cet enchaînement. Est-ce que tu peux nous raconter donc, la première partie de ce week-end à Amman et cette aventure en Jordanie en préambule à ton aventure sur la muraille de Chine?
Bah alors moi je pars du boulot, personne ne sait que je vais en Jordanie et en Chine et que je reviens lundi quoi. Même presque personne dans mon entourage est au courant, je l'ai dit qu'à une seule personne, parce qu'au début c'était j'avais peur de pas réussir à avoir les visas, les billets, etc. Bon, j'ai réussi à tout avoir, J-2 avant le vol, j'ai réussi à tout choper, visa en express et tout. Donc jeudi soir, je prends l'avion, je passe par le Caire, je sors du Caire, je reprends un deuxième avion pour Amman. Il est 2h du matin, quelque chose comme ça, 2-3h du mat. Je chope un taxi, on roule pendant 1h30 pour aller vers la mer Morte. Et là, il y a rien qui est prêt, ils sont encore à l'arrache, les médailles sont dans des sacs poubelles, la course un peu. J'ai publié les photos parce que les gens me croyaient pas. Je dis non, mais c'était fait vraiment n'importe comment. Nos sacs, il n'y avait pas de consigne. On les a mis dans une voiture. Ils nous ont filé nos dossards. Ils ne savaient même pas vu quel était nos numéros de dossards. Donc, c'était un peu folklore. Et on démarre la course à 6h du matin, je crois. Il faisait super chaud. Moi, j'avais pas dormi de la nuit. J'étais ultra fatigué. Bon, j'avais la journée de boulot aussi dans les pattes. Bon bah je pars quand même pleine balle. Bon j'explose entre le 5 et 10, je me rate totalement sur la course. Je me dis bon bah la deuxième partie je vais y aller en tranquille parce qu'en plus c'était une ligne droite aller-retour. Je me laisse redescendre sur le retour et je fais un 1h25 sans forcer. Et je me dis j'en ai un deuxième demain donc c'est bien, j'ai couru en 4 tranquille. Je me réserve pour le lendemain. Mais bon, il faisait quand même super chaud. J'ai quand même un peu subi. Et ensuite, quand je retourne de la course, je visite un petit village et tout. En fait, je devais retourner à l'aéroport, mais le taxi me dit « Ouais, ça te dit, je te fais visiter. » Bon, je pense qu'il voulait me soutirer un peu d'argent. Mais j'ai dit « C'est pas grave, allez. » Donc, j'ai visité une petite ferme, une fabrique de savon. J'ai vu un village, j'ai discuté un peu avec des gens. Je retourne à l'aéroport. On est toujours dans la même journée. Et là, je reprends un avion pour de Amman jusqu'à Abu Dhabi et après de Abu Dhabi, Pékin. Et là, Pékin, j'arrive en Chine. Et là, dans ma tête, je me dis, bon, bah, il y a plus qu'à, quoi. Faut aller sur la muraille et faut enchaîner, quoi. J'ai réussi à faire check, j'ai réussi à en faire un sur deux. Faut que je fasse le deuxième et que j'aille au bout du truc. Il n'y a pas de machine arrière possible. Donc, même si je suis ultra fatigué, je suis au bout du rouleau, je me force aussi un peu à visiter la ville, même si j'ai pas beaucoup de temps. J'ai quelques heures devant moi, donc je visite quelques temples, quelques lieux emblématiques de Pékin, le stade olympique. Et après, je vais directement Hôtel Plaza pour récupérer mon dossard, prendre la navette et aller vers la muraille de Chine.
Un hôtel que t'as failli jamais réussir à retrouver d'ailleurs?
Ouais, mais en fait, là, je te fais un condensé parce que j'ai eu tellement de galères sur ce week-end. Entre toutes les fois où je me fais arrêter à l'aéroport parce que en Jordanie, on m'arrête, j'ai un visa américain sur mon passeport, donc on me pose des questions. En Chine, on m'arrête parce que on voit que je viens que pour 24 heures, donc c'est suspect, donc je me faisais arrêter tout le temps. J'avais des galères de taxi parce que en Chine, ils sont pas très accueillants, ils te regardent, ils veulent pas te prendre, ils te parlent pas ou ils ont un peu rien à foutre de ta gueule. Donc tu prends sur toi et tu te dis, ok, je vais faire comme je peux et je vais avancer. Il faut juste que j'avance. Et si aucun taxi ne prend, bah je vais continuer à pied et je vais faire du stop et je vais choper quelqu'un qui va m'amener à l'hôtel. Donc j'ai réussi. Bon, à chaque fois, ça me coûtait vraiment beaucoup d'argent. Chaque taxi te prend une mine d'or. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Et puis moi, j'étais là vraiment pour réaliser un. J'étais pas encore conscient que c'était un rêve parce que pour moi c'était encore inaccessible et j'arrivais pas à visualiser le truc, mais pour moi j'étais parti pour réaliser quelque chose de grand, donc je calculais plus trop 50 euros, 20 euros, 30 euros, je faisais même plus gaffe en fait. En plus j'étais en yuan, donc j'arrivais pas forcément à faire la conversion.
Et physiquement, tu te sens comment une fois sur place avec, voilà, fallait encaisser ton sommier en Jordanie plus les trajets. Est-ce que toi tu te sens un peu affaibli?
En fait, c'est un moment où je me suis posé des questions parce que je commence à saigner du nez, à être complètement mort, et je saigne rarement du nez et je me fais waouh, ok, c'est vrai, parce que j'ai très peu dormi, parce qu'en fait entre le problème c'est que quand j'ai pris les billets d'avion, il n'y avait pas de vol direct et il n'y avait pas de, donc j'ai dû prendre que des billets simples à chaque fois, et donc j'ai des petits trajets qui te permettent pas forcément de dormir. Donc je fais quand je fais Paris Le Caire, j'ai 2 heures, Le Caire Amman pareil 2h30, Amman Jordanie, Amman Abu Dhabi pareil 2h, 2h30, et il y a vraiment quand j'ai fait Abu Dhabi Pékin où j'avais 7 heures de vol et j'ai pu dormir un petit peu, mais tu sais, dans un avion c'est pas vraiment confort, la nourriture pareil, donc du coup j'ai vraiment une fatigue. Mais je suis un warrior et dans ma tête, je me dis tout le temps, Zach, t'es une machine, il faut que t'avances, Et je me laisse pas abattre, même si je suis fatigué. Bah, en fait, j'ai pas le temps de réfléchir à la fatigue parce que je réfléchis juste à qu'est-ce qui arrive next. Ok, là, l'étape, c'est j'arrive à l'hôtel, je prends mon dossard, qu'est-ce qu'il y a après. Et je suis tout le temps en train de me dire, ok, quelle est l'étape suivante, et je me laisse pas le temps, même si je suis vraiment complètement fatigué.
T'arrives sur le départ de la course après environ 2 heures de quart et tu commences à faire tes premières gammes, et là ton échauffement va prendre une drôle de tournure.
Ouais, c'est ça. J'arrive, il y a plein de monde, il y a des touristes, il y a des coureurs. Il faut compter, je crois, à peu près 900 participants sur la course. Une grande partie étant sur le 10 km. Je crois qu'il devait y avoir 100 ou entre 100 et 200 sur le marathon. À peu près entre 200 et 400, je crois, sur le semi et tout le reste sur le 10K. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde. Et moi, je suis là, je sais pas trop comment me positionner, où je peux commencer à faire des échauffements, essayer de m'étirer un petit peu pour pas avoir de crampes. Et je commence à faire des petites gammes. Et là, il y a un type qui vient me voir et qui m'arrête et qui me dit, bon, je comprends pas le chinois, mais qui me fait des signes, qui me demande s'il peut faire une photo. Je lui dis, ok, je comprends pas trop sa démarche, mais pas de problème, allez, viens, bah, on fait un selfie. Et là, il y a une deuxième personne qui arrive. Et pareil, qui me demande une photo. Bah, moi, je me laisse porter par le truc. Je me dis, c'est des Asiates. Ils n'ont pas forcément vu beaucoup d'Occidentaux. J'en sais rien. Je réfléchis pas trop. Et ni une ni deux, bah, là, il y a une queue qui commence à se faire. Et en fait, il y a des gens qui font la queue pour venir se prendre en photo avec moi. Donc, je comprends pas. Je me dis, mais j'ai zappé quelque chose. Ou je pense que le fait de me voir en débardeur, en pom-pom short, j'avais j'étais en tenue de runner. Ils sont dû se dire que j'étais un athlète connu, puisque j'essayais de faire mes échauffements propres. Et là, il y a une queue qui se fait et les gens se viennent à côté de moi et se prennent en selfie les uns après les autres. Jusqu'à ce qu'il y ait des gens de l'organisation qui viennent autour de moi aussi et se prennent en photo. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est quoi cette histoire?
T'as dû halluciner.
Ouais, mais et ça m'a poursuivi jusqu'à la ligne de départ, en fait. Parce qu'à un moment, il reste quand même pas beaucoup de temps, il faut quand même que je m'échauffe un petit peu. Donc j'arrive à m'esquiver et je vois que le monde se dirige vers la ligne de départ, donc je fonce sur la ligne de départ pour être un peu devant. Là, en fait, je pensais que ça allait s'arrêter, mais même les types devant, ils sortaient des perches à selfie et ils prenaient en photo autour de moi et ils me disaient « Ouais, fais des signes et tout, regarde-moi, machin, serre-moi la main. » Donc moi, je me prends au jeu, je me dis « Bon, allez, c'est fun, c'est marrant et puis c'est dans la continuité du challenge. » Sauf qu'il y a un moment, il y a un drone qui descend et là, je me dis « Non, ça va trop loin. » Il y a un drone qui arrive, qui se met devant nous. Et t'as des gens de l'organisation qui me disent de faire le V de la victoire avec mes doigts, avec ma main. Donc, je mets mon bras devant, yeah, avec, avec le petit signe. Donc, ils sont tous en train d'applaudir. Je fais, putain, mais c'est bizarre, mais OK, c'est pas grave, allez, go. Et je regarde un peu autour de moi et je me dis, mais attends, est-ce qu'autour de moi, il y a que des personnes qui se prennent en photo, donc un peu des coureurs lambda ou pas à performance? Et en fait, je vois des trailers qui en ont rien à foutre de ma gueule, qui eux sont concentrés sur leur départ aussi. Je me dis, ah, ça me rassure, je vais pouvoir peut-être m'accrocher à des gens.
Est-ce que toi, tu as des ambitions particulières sur la course? Est-ce que tu as, si ce n'est profiter, est-ce que tu as un objectif de perf?
Alors en fait, toutes mes courses, je pars pour un objectif de perf, mais c'est débile, hein. C'est-à-dire, à chaque fois, je me dis, bon, bah, vas-y, je vise une 19 et je me rate tout le temps. Non, en vrai, j'ai arrêté. Au début, j'avais des objectifs de performance et j'ai très bien compris qu'en faisant des semis tous les week-ends, voire deux semis par week-end, c'était impossible de faire de la performance. C'était impossible d'avoir du repos. Donc, j'ai zappé le côté perf. Après, je suis quelqu'un de compétitif et pour moi, c'est hors de question de courir une course sans donner le maximum. Donc, même quand Jordani, je me suis un peu laissé traîner, je courais quand même à une allure assez soutenue. C'est juste que je me suis pas fait forcément violence à aller au bout du bout de ce que j'avais à l'intérieur. Donc là, clairement, même sur la ligne de départ, je pars pour tout donner. Je vise pas un classement, mais je vise juste donner le max de moi-même pour pas avoir de regrets, me dire « Ah, t'aurais pu aller plus vite, ou t'aurais pu faire ci, ou t'aurais pu faire ça. » C'est pour ça que j'arrive sur la course. J'ai pas de téléphone, j'ai pas d'appareil photo, j'ai rien. Je pars même pas du principe que je vais me faire une photo sur la muraille. Je pars pour courir.
Noble objectif, effectivement. Et est-ce que tu peux nous donner une idée du décor qui t'entoure, qu'on puisse un peu se projeter, imaginer quel est le contexte à ce moment-là? Est-ce que les conditions météo, pareil, est-ce qu'on est quasiment fin de printemps? Comment sont les conditions à ce moment-là?
Ah ben, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait vraiment chaud. Et puis là où on arrive, en fait, le car nous dépose. Il nous dépose sur une route. On n'est pas directement sur la muraille. En fait, il y a 2-3 kilomètres de route. Après, il y a 1 kilomètre de petite marche, un espèce de petit sentier qui nous amène vers la muraille. Et c'est de là où après, on sera sur la muraille. On a 5 bornes pures sur la muraille de Chine. Donc au début, moi, je suis là, je vois pas forcément de muraille. Je sais pas trop. Je vois une route. Donc on est sur une espèce de colline. Il faudrait que j'envoie des photos. Mais on est dans une espèce de colline, un peu comme tu vois. T'as plein de cars qui s'arrêtent, comme une aire d'autoroute. Ouais, on va dire ça comme ça, une aire d'autoroute. Avec plein de cars, des endroits pour manger, comme un espèce de petit restaurant, mais c'est pas un restaurant, c'est un endroit pour se changer et tout. Donc au début, je visualise pas forcément la muraille, je vois juste qu'on est énormément de monde, et avec une arche gigantesque. Et là, on nous explique qu'il va falloir descendre, courir la route en descendant, et après, ça va remonter et on va aller vers la muraille de Chine. Donc à ce moment-là, le paysage me dit rien. Je suis pas encore conscient de la course. Je sais pas comment, à quelle sauce je vais être mangé, en fait.
Donc, le départ est donné et tu démarres en fanfare, un peu trop, peut-être?
Ouais. En fait, comme il y a beaucoup de monde et je fais tout le temps cette erreur d'aller trop vite. Mais là, j'ai fait c'était le summum. Je crois que mon meilleur semi, c'est en 3:45 d'allure, que j'avais fait à ce moment-là. Et là, je suis parti en 3,15. Même sur 10 kilomètres, c'est pas une allure que je tiens. Donc, je sais pas pourquoi, je me suis fait absorber par...
Trop de pression.
Et je me suis fait... je sais pas comment, ils m'ont eu. J'ai couru avec eux et je vois premier kilomètre, 3,17, je crois, à ma montre. Je fais, non, mais c'est mort, je vais pas tenir ce rythme-là. Mais... Et du coup, je vois les gars, j'ai envie de courir avec eux parce que je sais pas pourquoi, je me suis senti pousser des ailes. Est-ce que c'est parce que je me suis fait bombarder de photos, j'en sais rien. Donc, le deuxième kilomètre, je lève la voilure, mais je suis quand même toujours en 3,30. Donc, c'est quand même très, 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 très rapide pour mon niveau. Alors, j'ai un niveau amateur, hein, donc je sais que pour certains, c'est pas grand-chose. Mais à mon niveau, ouais, 3,30 sur semi, c'est costaud. Et j'arrive kilomètre 3, premier ravito. Je m'arrête pour boire parce que je suis déjà épuisé, en fait. Donc, je prends une petite pause. Je vois que je laisse des coureurs passer devant moi. Là, on monte vers le kilomètre 4. Il y a des petites marches et en fait c'est là où je suis au bout du rouleau. J'ai complètement raté mon début de course. Je me suis troué totalement et là je me fais doubler par une vingtaine de coureurs. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Je me dis mais comment t'as pu être aussi con pour te cramer sur les deux premiers kilomètres. Donc j'essaie de reprendre mon énergie en montant les marches et de toute façon sur les marches tu peux pas trop aller vite. Mais ceux-là c'était des petites marches donc ça allait. Et en fait je dis allez, faut pas que tu lâches, t'avances. Tu poses pas de questions et tu donnes le max. Bon, tu vas encore en chier sur 18 bornes, mais c'est comme ça.
Et donc là, tu as un premier grand moment de récompense qui est ton arrivée sur la muraille.
J'arrive en haut du sentier, donc j'arrive sur la muraille. Et là, en fait, je me prends une grosse claque. Je sais pas comment, je m'y attendais pas et je sais pas comment l'expliquer. Je suis un enfant de la télé, tu vois, donc. J'ai beaucoup regardé la télé quand j'étais petit et j'ai beaucoup regardé des films de Jackie Chan, de Jet Li, des films asiatiques. Et tu vois la muraille de Chine, tu la vois que dans les films. Et là, t'arrives et t'es dessus, tu la vois qui se prolonge au long, interminable. Tu fais waouh, en fait, je suis sur la muraille. Moi, petit garçon qui a grandi dans une petite cité parisienne de famille pauvre, j'ai fait mon petit bout de chemin et là, je suis en Chine, à Pékin, sur la muraille de Chine et je cours un semi-marathon. En fait, je me dis ça, mais c'est Ça se fait en une fraction de seconde dans ma tête parce que je suis dans la course, que je peux pas m'arrêter. Mais j'ai ce petit instant où je me prends une petite gifle d'une fraction de seconde et je me dis, allez, faut que tu y ailles. Il faut que tu... Let's go, on attaque. Sauf que là, j'attaque la partie la plus dure.
Donc là, c'est les premiers kilomètres sur la muraille, en gros, entre à partir du kilomètre 4 jusqu'au kilomètre 7-8, c'est ça ?
C'est ça, c'est toute la partie sur la muraille, en fait. Moi, je pensais que c'était une course. Et en fait, c'est monter, descendre des marches. Il y a énormément de marches. Les marches n'ont pas la même taille parce que ça a été fait exprès pour pas que les envahisseurs puissent conquérir la muraille facilement. Donc, tu peux même pas avoir une espèce de régularité quand tu montes ou tu descends des marches. Donc, c'était vraiment dur. Je vois ma montre, les allures ne veulent plus rien dire. Je suis en 20 kilomètres. C'est un truc que je n'avais jamais vu de ma vie. Donc, il y a un moment où je monte des marches à quatre pattes. J'ai de la chance, j'ai des gants. J'ai eu des gants avant la course par une Américaine qui m'a filé des gants. Je la remercierai jamais assez. Donc, je portais des gants à ce moment-là et ça me permettait de monter les marches avec les mains, à quatre pattes, et de descendre sans me poser de questions, de m'aider des rebords. Après, il y a des portions où il n'y a pas de rebord, justement. Et en fait, tu fais super gaffe où tu cours, où tu mets les pieds parce que si tu te rates... Mais tu tombes dans le vide. Donc, il y a des passages où faut vraiment pas faire le malin. Tu peux pas forcément aller super vite. Mais après, c'est indescriptible. T'es sur la muraille. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. T'as des passages où t'as énormément de marches. T'arrives dans des espèces de mini tours où c'est tellement étroit que le passage est uniquement pour une seule personne. Et donc, t'avances un peu dans le noir. Après, tu ressors de la petite tour et tu redescends des marches, tu remontes des marches. Non, c'est vraiment oufissime. Donc, tout ça jusqu'à kilomètre, à peu près 8-9.
Et là, ce qui est assez étonnant, quand tu m'en as parlé, quand on a eu un échange préliminaire à cet entretien, en fait, vous évoluez au milieu des gens, quoi. La muraille n'est pas du tout coupée, il y a du public.
Non, exactement. Il y a des gens. Donc, après, comme on a démarré assez tôt, il n'y avait pas encore beaucoup de gens. Il y en avait quelques-uns, mais c'était gérable. Et du coup, on arrivait. Et puis moi, j'étais, mine de rien, j'étais quand même dans le groupe de tête. Je devais être dans le top 20, top 30. Donc, du coup, ça restait quand même assez gérable. Mais c'est vrai qu'il y avait des gens. Donc, du coup, sur la partie vraiment pure muraille, quand tu cours et que tu montes des marches, Ça va. Après, quand tu arrives dans les espèces de petites, je sais pas comment on appelle ça, des petites tours, des petits passages, où c'est étroit, où là, effectivement, bah, tu dis aux gens et t'essaies de voir pour qu'ils te laissent passer. Mais c'est vrai que ouais, c'était pas coupé à ce moment-là.
Changement de décor à l'issue de ce passage sur la muraille, te voilà parti dans une aventure inattendue qui ressemble étrangement plutôt à une session de trail qu'à un semi-marathon traditionnel.
Exactement. Donc, on sort de la muraille. Donc là, on descend les marches et on se retrouve en forêt à courir dans la forêt à côté de la muraille de Chine. Donc, je l'avais vu au moment de la réunion d'information des runners. Moi, je savais pas du tout. Je pensais qu'on faisait que de la muraille du début à la fin, quoi. Et moi, je suis débile. Hein, je me renseigne pas. Donc, du coup, je vois que c'est une partie trail. Moi, je suis pas du tout en chaussures de trail. Même la partie muraille, hein, je suis en basket de running. À basket de running légère et du coup ouais je suis sur un parti trail et je mets des arbres pour pas tomber mais ça me permet quand même de reprendre de l'énergie, de reprendre de la vitesse et du coup d'accélérer un petit peu plus. Il y a un moment où on arrive même sur du plat et là je lâche les chevaux et je fais allez, je suis pas trop fatigué, je suis fatigué mais c'est une fatigue pas dans les jambes, c'est une fatigue globale, mais j'arrive quand même à remettre de l'impulsion. Je crois que je redescends en allure, je passe sous les 4 et je commence à redoubler plein de monde. Je suis trop content, je me dis, allez, c'est le comeback, la remontada. Donc, redonne le max et grappille la moindre seconde que tu peux sur la petite portion de plaque que tu vas avoir. Parce qu'après, quand tu vas retourner sur la muraille, ça va être compliqué. Du coup, je passe le 10 ou le 11, je passe, je crois, en 1h20 ou 1h25. Si tu me dis, c'est une catastrophe, 10 km, 1h25. Il me faut presque, c'est presque une heure de plus. Qu'un 10K classique, mais bon, c'est comme ça, c'est une course complètement différente. En 1h25, moi j'ai déjà terminé un semi-marathon normalement, mais bon.
À l'issue de ce passage trail et du plat qui t'a permis de te relancer, tu te livres un duel à couteau tiré, on peut le dire, avec un coureur anglais, et puis tu rejoins la muraille finalement pour le trajet retour.
C'est ça, en fait, quand on passe la balise qui indique qu'on est à la moitié de la course. On revient vers la muraille et là on est toujours sur une partie un peu trail, un peu collinée. Donc ça monte, ça descend, j'alterne marche, course et je suis avec un anglais et on se tire la bourre lui et moi, je passe devant, il repasse devant. En fait pour se tirer l'un l'autre. Et du coup, il me dit come on, moi je lui dis allez, don't give up, voilà, donc on est tous les deux et jusqu'à ce qu'on arrive sur la muraille, on rattrape aussi d'autres coureurs. Et après sur la muraille, moi je remets un petit coup d'accélérateur. Et là, je sais que c'est le chemin du retour. Donc du coup, c'est un peu particulier parce que tu sais que t'as fait le plus dur et t'as fait plus de la moitié. Donc du coup, tu dis pas c'est bientôt la fin de la course. Tu dis merde, je vais bientôt quitter la muraille et je reviendrai peut-être pas ici avant très très longtemps. Donc il faut que j'arrive quand même à être dans ma course et à profiter de chaque instant quoi. C'est pas évident.
Et oui, donc tu dis en gros, enfin dans la lettre, tu découvrais le début de la course, et donc sur cette phase de retour, tu essaies d'en profiter un peu plus, mais finalement l'exercice s'avère pas tellement réalisable.
Bah après sur le retour, en fait, il y a plusieurs choses, c'est que t'as les touristes, t'as tous les coureurs qui sont eux sur leur phase allée de leur course, et donc du coup c'est encore plus dangereux parce que la muraille n'est pas extensible, donc forcément il y a des passages où c'est un peu technique. Et tu te dis j'ai pas trop envie de regarder mes pieds non plus parce qu'il faut que je regarde les paysages, donc il y a 15 000 trucs à faire en même temps sur 4-5 bornes, donc et ça passe pas vite mais ça passe relativement t'es obligé d'enchaîner, donc je regarde un peu partout, j'absorbe l'énergie de la muraille, j'absorbe les images, les paysages, et en même temps je suis en train de hurler comme un dingue en criant « Sorry, sorry, chiché, chiché ». Je dis merci en chinois pour que les gens se poussent parce que je suis dans ma course aussi et que je veux donner le max. Et du coup, j'arrête pas de hurler comme un barjot. Les gens se décalent, ils applaudissent, ils me laissent passer. Là, moi, je rattrape, j'arrive à doubler plein de d'autres runners parce que j'ai des gants. Ça, c'est vraiment le point positif. C'est que moi, je dévalais les marches avec les mains pour je m'appuyais des parois. Alors que les gars, ils avaient, t'avais certains avec des bâtons, t'en avais certains qui allaient un peu moins vite, mais du coup je suis dans ma course, je suis à fond, donc je vois les heures passer sur ma montre, je me dis mais c'est une catastrophe, on est à déjà presque 2 heures de course, donc j'arrive sur la fin, c'est le dernier kilomètre de la muraille, les ravitaux c'est une catastrophe, il y a tellement de monde que j'ai même pas le temps de m'arrêter. En fait, quand je veux m'arrêter pour boire de l'eau ou pour prendre un truc, t'as 100 personnes à chaque ravito minimum. Et c'est des petits ravitos qui sont sur la muraille, donc il y a pas forcément beaucoup de place. Donc des fois, j'arrive à me prendre un gobelet. Soit j'arrive à le boire, soit en fait, je le prends juste, je m'asperge parce qu'il fait trop chaud. Donc il y a un passage où je suis un peu dans le dur parce que j'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai pas eu de flotte. Mais je continue et je me dis, allez, c'est bientôt la fin, il faut pas lâcher, faut donner le max et tu te reposeras après la ligne d'arrivée. Il faut que tu fasses la course sans regret. Et du coup, j'arrive sur la fin de la muraille. Quand j'arrive sur la fin, j'ai un moment de lucidité où je me dis, je vais me retourner pour regarder la muraille une dernière fois. Je m'étais dit, voilà, c'est pas grave, quitte à m'arrêter trois secondes pour juste observer le paysage avant de sortir de la muraille. Au moment où je vais pour me retourner, il y a des organisateurs qui me regardent et qui me disent en anglais, t'es quatrième. Et je fais comment, je suis quatrième? Parce qu'en fait, les marathoniens avaient un chemin plus long, donc ils étaient pas encore revenus sur la sortie de la muraille de Chine. Donc j'en ai conclu qu'il y avait des mecs qui étaient plus rapides de moi qui étaient sur le marathon. Donc sur le semi, je suis quatrième. Et là, ils me font un signe de la main comme quoi descend, le gars est juste en bas. Donc bah je réfléchis pas trop, en fait je fonce et je descends les marches, je pars super vite et je regarde, j'arrive à hauteur d'un runner et je regarde sur son dossard si c'est 10 km ou semi-marathon. Et je vois semi-marathon, half-marathon sur son dossard. Et du coup je me dis, purée, c'est le troisième, faut que je le mange. Donc grosse accélération, là je lâche les chevaux, je réfléchis pas, je sors tout ce que j'ai, je suis en train de pleurer intérieurement parce que j'ai trop mal. Mais je me dis, je sais pas si c'est une blague ou si c'est vrai, mais si c'est vrai, il faut que je donne tout et que je lâche pas le morceau et c'est impossible qu'il me double. Et je cours comme ça pendant 2 km sans m'arrêter. Je me remets sur des allures très rapides. Bon, ça descend un petit peu, donc ça aide. Et j'hurle de douleur. J'ai les mêmes douleurs que quand j'ai fait mon seul marathon sur la fin. J'en pouvais plus. Mes jambes, ça tenait pas. Et là, je vois ma montre. Je suis à 2h45, 2h50 d'effort. J'en peux plus, j'ai qu'une envie, c'est que ça se termine. Et du coup, je vois l'arche au loin et je vois toujours le ruban qui est accroché et je me dis « no way ». Donc, je mets un gros sprint, je passe la ligne d'arrivée et on me met un pass en me disant « tu es troisième ». Et là, je tombe par terre, je suis trop content en fait. Je me dis « attends, j'ai dépensé je sais pas combien d'argent, j'ai fait un week-end de dingue, je vais sur la muraille de Chine et j'arrive à finir troisième sur le semi-marathon ». Alors oui, c'est une course un peu… comme on dit, course saucisson, il n'y a pas forcément peut-être beaucoup de niveaux ou quoi que ce soit, mais à mon petit niveau j'étais trop content.
Sacré perf. Et qu'est-ce que tu ressens justement, enfin, l'émotion qui prédomine à ce moment-là, c'est quoi quand tu franchis la ligne d'arrivée?
Bah, quand je franchis la ligne d'arrivée, je me dis ouais, alors je sais que même si des gens de ma famille qui n'y connaissent rien, si je leur dis je suis troisième et que je reviens avec un trophée, et ils pourront avoir quand même ce petit sentiment de fierté. Et je me dis, même moi, quand je serai plus vieux, je me dirais, je suis allé sur la muraille de Chine et j'ai quand même fait troisième, c'est pas dégueulasse. Donc, j'étais trop content. Et je me dis aussi, il y en a plein qui vont tellement pas me croire parce que j'avais annoncé que je partais en Roumanie au départ et j'avais dit à personne que j'allais faire Jordanie et Chine. Je me dis, quand je vais balancer ce truc, il y en a qui vont me dire, c'est complètement fou.
Ça va faire son petit effet, ouais.
Mais du coup, j'ai pas trop le temps parce qu'en fait, je suis millimétré au niveau du temps. Et donc, je vais à la zone de massage pour me rafistoler. J'ai trop mal aux jambes, j'en peux plus. Et j'attends juste qu'on donne les résultats parce qu'en fait, moi, je dois retourner à Pékin et puis après reprendre mon avion pour Paris. Donc, j'ai pas trop le temps. Ça m'est déjà arrivé sur une course en Grèce d'avoir fait troisième et de ne pas être resté sur le podium parce que j'avais un bus à prendre pour retourner à Athènes et reprendre l'avion. Mais là, je me suis dit, je vais quand même patienter un petit peu. Et si il faut, je prends la deuxième navette. Donc là c'est cool, les coureurs, il y a de plus en plus de coureurs qui passent la ligne d'arrivée et on commence le protocole de remise des prix. Et donc j'entends mon nom qui est appelé. Bon, ils savent pas trop dire mon nom de famille, ils l'écorchent un petit peu, mais c'est pas grave. Et au moment d'aller sur scène pour récupérer nos trophées et monter sur le podium, là on nous amène dans un petit coin et on nous dit tenez, mettez ces vêtements. Du coup, je comprends pas trop ce qui se passe. Et en fait, on me donne un survêt rouge, un pantalon et une veste avec le drapeau de la Chine.
Improbable.
Non, mais vous êtes sérieux? Faut vraiment que je porte ça? Ah ouais, faut le mettre. Et je vois sur la partie féminine, donc il y a une nana, une américaine. Et pareil, elle a pas trop envie de porter les vêtements. Moi, je dis non, mais moi, je garde mon t-shirt de club, pas de club, mais de groupe de course à pied. Et enfin, non, c'est non négociable. Vous mettez ces vêtements. Bon, bah, du coup, j'enfile le pantalon rouge, j'enfile la veste avec le drapeau de la Chine. Bon, je laisse quand même, contrairement à mes deux comparses, je laisse la veste ouverte pour laisser un peu le logo de mon groupe de course à pied. Mais c'est quand même drôle. Tu te dis, je suis habillé tout en rouge, en tenue communiste. Et donc après, on monte sur scène et on nous remet nos trophées et c'était top.
Tes deux comparses qui étaient chinois d'ailleurs.
Ouais, exactement.
Est-ce que tu peux nous parler de ton trajet retour, puisque l'élan de popularité qui t'a entouré sur la ligne de départ, c'est pas vraiment arrêté sur tout ton chemin retour et les vols intérieurs?
Ouais, en fait, j'ai gardé la tenue. Donc, j'étais trop mort surtout. J'étais au bout de ma vie. J'ai presque pas dormi. Je suis complètement claqué. Mais je me dis, je l'ai fait, et j'arrête pas de me dire ça dans ma tête. Mais bon, du coup, je reprends le car pour retourner à Pékin, et j'ai autour du cou, j'ai ma médaille, j'ai le pass écrit en chinois avec, moi je reconnais juste sur le pass, il y a le chiffre 3. Bon, j'en conclue que c'est écrit troisième position semi-marathon de la muraille de Chine. Et j'ai mon trophée dans la main, mon sac à dos. Donc je dois arriver à Pékin, récupérer mon sac à dos que j'ai laissé à l'hôtel, et après retourner à l'aéroport. Et là, en fait, les gens qui m'ont totalement ignoré à l'aller et qui me dévisageaient un petit peu parce que j'étais occidental, etc. Bah là, ils me regardaient tous et ils me faisaient des petits signes de la main, des petits pouces. Ils me disaient « Ah, bravo !» Et ils me disaient « Ah, good, good, good !» Et j'étais trop content, tu les vois, ils sont trop contents pour toi. Ils saluent aussi la perf parce que je pense qu'il y a écrit sur le pass et sur la muraille de Chine que c'est l'une des courses les plus dures au monde. Donc j'étais content d'avoir cette petite reconnaissance de people autour de moi. Et puis je prends l'avion, je fais Pékin, Chengdu. Donc là, dans l'avion, je suis avec pratiquement que des Chinois, des Asiatiques. Donc pareil, tous me regardent, une fois, ils me font des petits signes, bravo, bravo, bravo. Et là, en fait, quand je fais Chengdu, Paris, là, c'est l'effet inverse, où justement, dans l'avion, tu as beaucoup de Français et tu vois les Français qui te regardent un peu bizarrement. Mais ce mec, c'est bizarre, c'est quoi ça? C'est un sportif, c'est pas un sportif, il est connu, il est pas connu. Pourquoi il est habillé en tenue chinoise? Pourquoi il porte un trophée, une médaille? Bon, bah, tu fais pas trop gaffe. Et puis, en fait, tu as toujours l'image de sportifs qui rentrent à Paris après une compétition. Il y a leur famille qui les attendent, il y a les supporters qui les attendent, il y a leur copine ou leur copain ou leur conjoint. Et moi, en fait, il n'y a personne. J'arrive à Paris, Charles de Gaulle, je suis tout seul. Et je me dis, c'est la loose quand même. Personne n'est là, personne n'est au courant, personne pour me féliciter. Et je vais aux toilettes de l'aéroport, je me change, je me remets en tenue de civil. Et il est 7h du matin et je prends mon sac à dos, RERB, Gare du Nord, et je retourne bosser. Et j'arrive au boulot à 9h. J'arrive au boulot à 9h et puis on me dit, bah Zach, alors c'était bien ton week-end? Parce que j'avais posé mon vendredi. Je fais, ouais, bah j'étais en Jordanie, j'étais en Chine, sur la muraille de Chine, c'était cool. Et toi, c'était bien? Et du coup, tout le monde me regarde comme ça en me disant, bah arrête de foutre de notre gueule. Je fais, non, c'est vrai. Et là, je montre une photo. Il me fait, mais t'es un malade. Genre là, t'étais hier. Donc là, hier, t'étais en Chine. Je fais, oui, j'étais en Chine. Donc là, je redescends de l'avion, là. Il me dit, mais t'es les 24 heures, c'est débile. T'es fou. Pourquoi t'as fait ça? Bah, j'ai fait le semi-marathon. Ah bon? Je fais, en plus, je finis troisième. Non, mais t'es complètement dingue. Et voilà, c'est comme ça qu'après, il y a plein de gens qui ont pris pour un fou parce que je suis le seul mec à faire Paris, Jordanie, Jordanie, Pékin et revenir tout ça sur un week-end.
Comme si de rien n'était. Génial. Et a posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur la course?
Sur la course en elle-même, c'est la gestion de l'effort. Je suis pas trailer, donc moi j'ai jamais bouffé vraiment de D+. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Faut que je travaille la côte. Faut que je travaille. Faut aussi que j'achète un équipement. Ça, c'est mon gros défaut. C'est que j'ai fait plusieurs trails. C'est pas la première fois. Même après, quand j'ai refait d'autres courses, je minimise l'équipement parce que je me dis, c'est bon, je suis pas un trailer, je fais de la course à pied, je vais aller avec mes running. Alors qu'en fait, il faut des vraies baskets parce que sinon, tu te casses la gueule une fois sur deux. Et c'est débile. Il faut que je commence à investir dans un équipement et à préparer un petit peu plus des courses avec du dénivelé.
Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cette course à un moment, une émotion qui prédomine? Si tu devais retenir une chose.
Ouais, bah la claque que j'ai prise sur la muraille. Et en fait, c'est même quand je me remate des films aujourd'hui que je vois la muraille de Chine, j'arrive pas à me dire en fait, j'y étais. C'est ça le truc qui... C'est même là, quand on s'est contacté, je suis retourné sur le site et j'ai découvert des nouvelles photos que j'avais jamais vues. Et j'étais trop content parce que j'avais pas de photos, j'en avais très peu. J'avais réussi à trouver une photo de course et j'avais la photo que j'ai du podium qui a été faite avec mon portable. Et là, je suis allé sur le site et j'ai réussi à trouver des nouvelles photos que j'avais jamais vues. Et je suis trop content parce que j'ai ces images qui montrent que j'ai été sur la muraille, qui montrent aussi un peu la difficulté de la course parce que elle est pas évidente. Mais ouais, j'ai cette petite baffe que je me prends quand je suis en haut et que je regarde au loin et que c'est, tu vois, le mur qui ne se termine pas, qui se finit jamais. Tu te dis, c'est impressionnant.
Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi? Est-ce qu'elle a changé des choses dans ton rapport à la course à pied, dans ta confiance? Enfin, est-ce qu'il y a eu un avant et un après?
Elle m'a confirmé que j'étais fou, en fait. Vraiment, parce que je sais pas si je peux dire ça, mais ça m'a coûté beaucoup d'argent. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je crois que ça a ouvert une espèce de vanne où derrière, je me suis dit, ça a biaisé un peu ma relation avec les courses. Là, le dossard coûtait 400$. La Jordanie, le dossard coûtait 100$. Donc, t'en es déjà presque à 500€. J'ai pris 6 avions sur le week-end. J'ai pris un hôtel pour poser mes affaires. J'ai mangé quelques petits trucs. Donc, j'en ai eu pour entre 2000 et 2500€ le week-end. C'est énorme pour 2 jours. C'est plus que mon salaire. Et du coup, tu te dis, est-ce que c'était intelligent de faire ça ou pas? Je regrette pas parce que c'était une expérience unique et je me dirais il y a peu de fous en France ou sur Terre capables de faire ce truc que j'ai fait sur un week-end. Donc je regrette pas. Mais après derrière ça, j'ai refait une course l'année dernière en Sibérie et là le dossard était beaucoup plus cher. Donc et le truc c'est que comme j'ai fait la muraille de Chine et que j'ai payé beaucoup d'argent, j'arrive à me dire bon bah c'est quand même moins cher que la muraille de Chine donc je me le fais quand même ou c'est dans le même ordre d'idée. Et ça a changé un petit peu ma perception de coût du dossard, coût du voyage. Bon, même si je suis pas millionnaire, j'ai un salaire comme tout le monde et que j'ai des factures à payer, donc je peux pas me permettre de faire ça tous les ans. Mais voilà, ouais, la relation argent-course et folie, c'est plus pareil. J'ai regardé derrière pour faire des courses. Il y a des courses où tu dois t'enfuir d'une forêt amazonienne où on te drop quelque part. Il y a des courses dans des safaris où tu cours au milieu des lions et des animaux. Donc maintenant, je cherche toujours des trucs un peu plus farfelus, un peu plus fous à faire.
Et est-ce que c'est une course que tu envisages de refaire un jour ou est-ce que tu veux graver à jamais cette première fois sur la muraille de Chine et que de toute façon, la fois d'après sera forcément différente ou moins bien et que tu préfères rester sur ce souvenir mémorable?
Alors, je sais pas parce que, pour être honnête, j'étais un peu déçu de la Chine en elle-même, entre la pollution, les gens... l'insalubrité, il y a pas mal de choses qui m'ont pas forcément plu en Chine, mais c'est vrai que idéalement j'aimerais bien y retourner un jour avec mes enfants pour faire la course ou pour marcher, j'en sais rien, mais c'est quelque chose que moi j'ai pas eu ce côté partage de souvenirs avec mes parents, on a très peu de choses qu'on a partagées et encore moins des voyages ou des week-ends. Et du coup, c'est quelque chose que je vais essayer de corriger et pouvoir amener mes enfants dans des lieux un peu atypiques. Et pourquoi pas me dire, bah, aller sur la muraille de Chine et leur dire, bah voilà, votre père, il est venu là quand il avait 31 ans et il a fait le semi-marathon et il a fini 3e. À voir.
Ok, bah écoute, merci beaucoup, Zach, d'avoir partagé avec nous cette course épique totalement incroyable et riche en rebondissements. On va parler un peu d'avenir maintenant. Est-ce que tu as un projet particulier en tête là, pour l'année à venir ou une idée de course à laquelle tu voudrais absolument participer?
Alors, il y en a une que je devais faire cette année, en 2020, que je n'ai pas pu à cause du Covid, que je garde dans un coin de ma tête pour 2021 ou 2022. C'est le semi-marathon de l'Everest. Donc, il y a un semi sur l'Everest. J'ai trouvé cette course. C'est une course dingue, encore plus folle que la muraille, je crois. Donc, il y a ascension de l'Everest, pas forcément jusqu'en haut des 8000 mètres, mais tu fais une partie de l'ascension, tu fais un semi-marathon sur l'Everest et tu redescends de ton ascension. Du coup, la course coûte super cher, elle est super dure. Mais c'est pour moi c'est le cran un peu encore au-dessus. J'ai fait la muraille de Chine, après j'ai couru sur le lac Baïkal en Sibérie, Et du coup, là, je me dis, au-dessus du lac Baïkal, bah, il y a l'Everest. Et après, on verra ce que je trouverai comme autre course intéressante. Mais ouais, l'Everest, c'est quelque chose que je veux faire.
Le semi, c'est la distance la plus longue ou il y a aussi un format marathon?
Moi, je pense qu'il y a les trois. Je pense qu'il y a, souvent 10K, semi et marathon. Après, c'est des courses où il n'y a pas beaucoup de participants. Souvent, c'est une centaine de personnes qui sont alignées. Parce qu'il y a la barrière financière et il y a la barrière aussi physique et il y a la barrière aussi mentale. C'est pas n'importe qui se lance sur ce type de course. Mais c'est la grosse course, hormis faire des semis ou des courses dans Paris pour aller chercher des chronos, parce que là maintenant, bon, j'ai un peu fait des courses amateurs pour m'amuser. J'aimerais bien quand même m'entraîner, progresser et améliorer mes performances. Donc ça, c'est dans un coin, la partie perf pour ici au niveau local. Et au niveau international, ouais, l'Everest, c'est quelque chose qui me branche.
Est-ce qu'à l'inverse, tu vois des limites où il y a des choses que tu t'interdis de faire ou que tu imagines jamais pouvoir accomplir?
En limite, bah mon âge, j'ai 34 ans maintenant, donc c'est un peu la loose. Je viens de passer master, je suis plus senior. je sais pas, c'est bizarre.
Un sacré cap.
Ça change un peu ma perception de la course à pied, de mon niveau. Non, mais oui, j'ai plus le même physique qu'avant. J'ai plus la même énergie et puis même mentalement, je suis un peu moins bon. Donc les limites, je les vois là. Je peux plus faire ce que j'ai fait d'enchaîner 20 semis en 3 mois, faire 2 courses dans le même week-end, 3 courses sur 3 jours. C'était marrant, mais je le ferai plus. J'ai beaucoup de boulot, j'ai un autre rythme de vie aujourd'hui. À voir. S'il y a un truc fun ou un truc à partager avec des copains ou en famille, ouais, je me relancerai dans un truc un peu périlleux. Mais là, je me focalise plus sur une seule course à préparer.
Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, autrement dit, la devise qui t'inspire ou qui te guide dans la vie. Est-ce que tu auras un motto à partager avec nous?
Alors moi, j'ai un leitmotiv, c'est que je veux ma vie soit pleine de souvenirs et pas d'objets. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on je dépense de l'argent sur des trucs comme ça, parce que quand je serai vieux, je m'en ficherai d'avoir le dernier iPhone ou la dernière télé ou la dernière paire de sneakers ou la dernière paire de running à 350 €. Non, je rigole. Non, mais je veux. l'objectif, c'est vraiment, moi, je veux vivre des expériences. Je viens d'un milieu très modeste et très, très où on reste dans son coin et on bouge pas, on fait pas de vagues et on n'apprend pas grand chose non plus. Donc, j'ai soif de culture, j'ai soif d'expérience, j'ai soif d'aventure. Et c'est pour ça que je veux remplir ma vie de souvenirs. Donc, remplissez votre vie de souvenirs et pas d'objets et pas d'éléments matériels.
Écoute, Zach, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre marche après marche cette course épique en or. Mais l'avantage, c'est que tu as plein de courses épiques. Donc, je pense qu'on pourrait tout à fait imaginer faire un épisode sur ton semi au lac Baïkal, sur le semi que tu as fait à l'envers. On n'en a pas parlé. Mais voilà, en tout cas, c'est un puissant fond d'histoire que tu pourrais partager avec nous. Donc, on se recroisera probablement dans un de ces épisodes. En tout cas, en t'écoutant raconter ce semi de la muraille de Chine, je dois t'avouer que ça m'a super chauffé pour m'y inscrire et j'imagine que je dois pas être le seul. Bravo en tout cas à toi pour cette 3e place assez incroyable. Je voulais quand même savoir, est-ce qu'il t'arrive encore de mettre ta tenue de finisher ou elle reste bien au chaud dans ton placard?
Non, je l'ai même plus en fait.
Oh non, sacrilège. Tu peux pas faire ça.
Je l'ai donné.
Oh non.
Non mais en fait, je fais beaucoup de courses. Donc du coup, j'ai énormément de t-shirts. Je crois que chaque année, je dois faire au moins par an, je dois faire entre 50 et 60 ou 70 courses. Bon, pas cette année parce que c'est une année exceptionnelle, mais je fais toujours beaucoup de courses, donc toujours les t-shirts et les vêtements, je les donne à des enfants défavorisés. Et du coup, la tenue, effectivement, je l'ai donnée. Je me voyais pas marcher dans la rue avec un pantalon, une veste communiste à l'effigie du drapeau de la Chine. C'était un peu bizarre.
Je comprends. Bon, en tout cas, merci encore pour nos échanges, Zach. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures et je suis certain que les défis ne manqueront pas. Voilà, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je te dis
merci.
À très bientôt.
Plaisir partagé, à bientôt.
Salut Zach. Ciao, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.